faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer les fragments d'une époque pour les transmettre aux générations futures. Un peu comme une bouteille jetée dans la mer du temps.
Ensemble, nous démarrons l'émission Capsule temporelle.
Alors aujourd'hui, l'émission se passe au CHRS de Tournon. Avec l'association Entraide et Abri, qui propose donc de l'hébergement d'urgence, ainsi qu'un accueil de jour aux personnes en difficulté, quelles qu'elles soient. Et donc, je vais faire un petit interview avec Fabien, éducateur spécialisé sur les lieux déjà depuis une quinzaine d'années, et qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement, et ainsi que tous les acteurs qui accompagnent cette association. Alors, allons-y.
Finalement, sur ce type d'hébergement, c'est un peu de l'urgence.
C'est de l'urgence.
Hein, c'est carrément de l'urgence, en fait. Ouais. C'est pas fait pour être pérenne, hein, c'est juste pour une transition, pour accéder à autre chose.
C'est une transition, c'est vraiment pas fait pour être pérenne. On va s'adapter à la temporalité de la personne, parce que c'est un facteur essentiel de la réussite du projet de la personne, c'est le temps qu'on s'accorde pour ça. D'expérience, on s'en rend compte, si on met la charrue avant les bœufs, cette expression elle est pas chouette, mais c'est la seule qui me vient, en vrai. Il y a quelque chose qui va s'effriter, les fondations vont être trop fragiles, l'édifice qu'on va construire par-dessus, ça tiendra pas. Et souvent, on assiste à des retours en arrière, des retours à l'hébergement, des retours à la précarité, des retours à la rue. Donc, on s'aperçoit.
Mais ça, c'est par exemple sur quelqu'un avec qui vous n'avez pas, par exemple, trouvé un logement, etc. Qui, du coup, ça ne tient pas, ou c'est des choses comme ça ?
Ça peut être une personne qui fait une entrée logement. J'ai l'exemple d'un garçon qui est rentré en logement, c'était au tout début de l'été 2024. Il est resté entre 6 et 9 mois, je crois, à l'hébergement d'urgence. Il était prêt. Administrativement parlant, il était prêt. Personnellement, il était prêt. Le foyer, ça commençait à lui peser. Donc l'entrée logement, on y était. Il fait son entrée logement, on ne le voit pas pendant quelques jours, le temps qu'il s'approprie son chez lui. Il est revenu ici. La première chose qu'il nous a dit, c'est dur. C'est dur de se retrouver tout seul.
Oui.
Effectivement, le loyer est payé, les charges sont payées, mon frigo est rempli. Mais je suis tout seul. Oui. Je suis tout seul. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un élément qu'il faut aussi qu'on prenne en compte quand on fait rentrer des gens en logement après une période de collectif, oui, ou de choses comme ça. C'est qu'il y a une solitude qui s'installe. Donc après, là aussi, on a des collègues, des services qui peuvent assurer un suivi une fois la personne dans son logement. Comment on s'inscrit sur le territoire, par le biais de l'associatif, du caritatif, peu importe. Mais ce qui peut ramener à une vie ordinaire, j'ai envie de dire, comme tout le monde, parce que le but, il est là.
Et par exemple, est-ce que ça s'envisage des fois des colocations ? Des logements qui se divisent en deux, par exemple, des choses comme ça, ouais, qui ne sont pas tout à fait collectives, parce que collectif, c'est dur, mais qui, en même temps, permettent de ne pas être seul, enfin, je ne sais pas.
Ça peut. Alors, ça a été tenté au niveau associatif. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Ça dépend des règles, ça dépend des gens. Ça dépend de leur capacité à cohabiter, de leur capacité à adopter d'autres règles que les règles de la rue. Quand on est dans un logement ou dans un hébergement, comment est-ce que on fait un pas vers l'autre pour essayer de le comprendre et ne pas s'écouter que soi. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, nous, on sait à peu près faire, parce qu'on a à peu près les codes pour ça, parce qu'on a eu à peu près une éducation qui nous permet de le faire. C'est loin d'être le cas de tout le monde, en vrai. Donc c'est pas forcément évident. Les colocs, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc après, il y a des colocs qui se font, mais informels, j'ai envie de dire. Parce qu'un gars qui accède à un logement va pendant un temps héberger un copain qui est dans la rue. C'est une forme de coloc.
Oui.
C'est une forme de coloc. Mais c'est éphémère et c'est exactement le même process que vous êtes dans la galère, dans votre vie privée, dans votre vie perso. Vous êtes hébergé par un pote ou par un membre de la famille. On sait, parce que des études ont été faites sur le sujet, que cette solution, ça va durer qu'un temps. Et qu'au bout d'un moment, les liens vont se distordre, ça va se déliter, et on va arriver à une rupture. On va arriver à une rupture. Voilà. Donc c'est aussi des éléments à avoir en tête. C'est sur un côté provisoire, sur un côté urgence, ça peut être très très utile. Mais dans le temps, généralement c'est compliqué.
D'accord.
Généralement c'est compliqué.
Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce...
Dans ça fait 15 ans.
15 ans, ouais, donc tu as une vue forcément, voilà. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a vécu dans la rue un certain nombre de temps, c'est-à-dire assez, enfin, pas mal, quoi, est-ce que du coup il arrive vraiment à...
À se sortir de la rue.
Ouais. Est-ce que vraiment il en a envie? Parce que peut-être pas non plus, enfin j'en sais rien, je sais pas.
Bah, encore une fois, ça dépend de l'envie de tout un chacun. Il y a des... Si vous passez sur l'accueil de jour tout à l'heure, vous verrez un certain nombre de gars, leur habité, c'est la rue. Et ils n'envisagent rien d'autre que la rue. Comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dedans? Voilà, ça aussi, c'est notre boulot. Ouais. Le logement, c'est pas la demande. Ok, on fait avec.
Et alors, dans ce cas-là, la demande, elle est de quoi, finalement?
La demande, elle va être sur une vigilance sur la santé, une vigilance sur les ressources. Donc, notre boulot, ça va être de faire en sorte que les droits santé soient ouverts et perdurent dans le temps, que les ressources soient ouvertes et perdurent dans le temps, qu'il n'y ait pas de coupure de droits, parce que bah, malgré tout, il faut s'alimenter, il faut manger, il faut payer son tabac, ses consos, parce qu'il y a des consos aussi très souvent. Donc, tout ça, c'est un coût. Donc, eh ben, être autonome financièrement, ça sert aussi à ça, en fait. À pouvoir s'assumer quotidien. Peu importe où je vis, je m'assume. Je m'assume. Je choisis de vivre dans un logement, je fais en sorte que mes charges, mon frigo soit plein, mon loyer soit payé. Je vis dans la rue. Finalement, il n'y aura pas de loyer, mais il y aura d'autres choses à prévoir. Et je fais en sorte que, voilà, que ça tienne. Que ça tienne.
Et du coup, les ressources, comment ça se passe quand tu es dans la rue? C'est un RSA ou c'est quoi?
C'est pareil, il peut y avoir plusieurs types de ressources. Alors il y a du RSA évidemment, il y a quelques gars qui ont du salaire parce qu'ils font des saisons, mais qui choisissent d'habiter dehors, en camion, en tente, peu importe, mais qui pour le coup ont du salaire ou des compléments sur France Travail. On a aussi des gars qui perçoivent des ressources liées à la CAF, comme la MDPH et l'AH par exemple. Donc on a aussi ça. Donc
en fin de compte, il y a personne qui est vraiment sans ressources, quoi. Ça n'existe plus.
Ça enfin, existe pas. Non, c'est vrai, ça existe de moins en moins.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça existe de moins en moins. C'est tiraillé, c'est mis à mal. On le voit avec le débat qu'il y a sur le RSA récemment, enfin
oui.
Régulièrement. Il y a quelques temps en arrière, sur les droits maladie, c'était l'AME qui était tiraillée un peu dans tous les sens. Heureusement qu'il y a ça. Et heureusement que ça existe. Donc oui, effectivement, les personnes vraiment sans ressources, il y en a. Mais on va dire que les personnes sans ressources, c'est des personnes qui n'ont pas droit aux ressources. Pour le coup...
C'est quel type de personnes sans ressources?
Alors, ici, la grande majorité des personnes vraiment sans ressources et non éligibles à des ressources, ça va être des personnes, la plupart du temps, déboutées du droit d'asile.
Ah, oui.
Où l'État, sous quelques conditions, va autoriser la mise en place de l'aide médicale d'État, justement, parce que on se rend bien compte que se soigner, ça coûte cher. Ça coûte cher à la personne, ça coûte cher à la société. Et quand on n'a pas de couverture sociale minimum, à terme, ça coûte encore plus cher. Voilà. Ça, c'est un constat qu'on fait globalement, pas tous les jours, mais en tout cas très souvent ici. Donc heureusement qu'il y a ça qui existe. Mais la plupart des personnes qui n'ont pas de ressources et qui ne sont pas éligibles à des ressources, la plupart sont des personnes qui sont déboutées d'avoir des aides. Sans faire de généralité, je vais parler juste de mon cas, de ce que je peux observer à ma petite échelle, à mon petit niveau. Les personnes que je vois arriver ici au foyer qui sont en demande d'asile ou déboutées du droit d'asile, leur objectif principal, c'est déjà d'une, se sortir de la situation qui a fait qu'elles quittent leur pays. On ne quitte pas son pays, sa patrie, sa famille par plaisir, c'est faux. Travailler, se loger. La motivation des gens que je fréquente à mon niveau, à mon échelle, elle est là. Quand on accède à ce droit-là, on travaille. Là, voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà une mise au travail bénévole par le biais du caritatif local, le Secours Populaire, par exemple, qui est vraiment une ressource incroyable, vraiment. Donc la première chose, c'est on s'inscrit sur le tissu bénévole local, on est actif. On est vraiment actif à ce niveau-là. Y a une espèce de notion très présente de la France m'héberge et me nourrit. Je dois quelque chose en retour. Je dois quelque chose en retour. Donc je vais aller faire du caritatif, je vais aller donner un coup de main. Ça, c'est vraiment très très présent. Les personnes qui vont arriver à avoir des papiers, la première chose qu'elles font, c'est de se trouver un travail. C'est se trouver un travail. Et ce qu'on entend, c'est, mais comme tout le monde, comme tout le monde. Quand on refuse des papiers à une personne, on refuse le fait qu'elle puisse travailler. Donc en fait, on va
accentuer, finalement.
On va accentuer tout un tas d'autres trucs, pas forcément légaux. Le travail non déclaré, enfin, qui mettent en difficulté des patrons, de la société, la personne elle-même. Enfin, c'est complexe. C'est vraiment très très complexe. C'est vraiment très très complexe. Parce que les gens qui... Après, c'est un travail de fourmi, hein, de déplucher la situation des gens. Ça aussi, ça peut faire violence à la personne, en vrai. Hein. De livrer sa vie comme ça.
C'est intrusif.
Ça peut être très intrusif. Ça peut être vraiment très intrusif. Alors, on va dans un premier temps se contenter de vraiment les papiers, l'administratif. Mais on se rend compte que très souvent, les gens d'elles-mêmes, en fait, les personnes d'elles-mêmes vont nous livrer des éléments de vie, des éléments de parcours. Et
forcément, ouais.
Ouais. Et c'est parfois lourd. Vraiment très, très lourd. Vraiment très, très lourd.
Et donc, vous vous occupez aussi, par exemple, des demandes d'asile et tout ça? Ça peut arriver ou pas?
Non.
Non. Il y a une autre association,
ouais,
peut-être?
Oui, hein,
sur Valence. Oui, parce qu'il y en a pas mal. Ouais.
Qui va gérer les demandes d'asile en tant que telles. Nous, on va héberger les personnes en demande d'asile qui n'auraient pas eu de place dans un CADA, par exemple, ou dans un UDA, qui sont des établissements spécifiques pour ce type de public-là, mais qui sont autant saturés que nous, en fait. Donc, voilà.
Comment on situe l'urgence, hein? C'est-à-dire, le 115, il dit, bon, bah, là, c'est urgent parce que quoi, en fait?
Le 115 dit, c'est urgent parce qu'on appelle le 115.
C'est ça.
Tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement. Après.
Non, mais vous, est-ce que vous avez une forme de. Enfin, critère, entre guillemets, parce que du coup, vous êtes quand même.
Ici, sur l'hébergement?
Ouais, parce que vous n'avez pas beaucoup de place, en fait.
Non, il n'y a pas. Moi, le 115, en fait, une personne va quitter l'hébergement, je le signale au 115, et le 115 va regarder sur ses listes d'appels, en fait, et va me dire. Aujourd'hui, il y a monsieur ou madame Intel qui va arriver.
Ok,
pas de souci. Moi, finalement, le seul regard que je vais pouvoir avoir, c'est de me dire j'ai 15 personnes à faire tenir sous un même toit. Et mon seul regard, il sera là. On parle d'accueil inconditionnel. Donc, le 115 me dit, vous accueillez telle personne, on accueille telle personne.
Ok.
Ouais, voilà. On n'a pas de...
Pas de critères précis.
Ben non, après, le critère, il va des fois être bête et méchant. On sait, ben, la personne a un chien.
C'est ce que j'allais dire.
Et ben moi, j'ai plus de place dispo pour accueillir des chiens. Et la limite, elle peut être là.
Et les enfants ?
Les enfants mineurs, non.
Ah ouais.
C'est ça le problème. Ou alors, il faudrait avoir une place dans un appartement d'urgence. Là, pour le coup, on peut accueillir une personne avec son enfant. Mais voilà, donc c'est pas vraiment des...
Donc c'est fait quelque part pour des personnes seules, quoi.
Isolées, en couple.
En couple, il y a possibilité.
Ouais, ouais. Alors il y a possibilité, mais alors c'est pareil, parce que pour pouvoir faire en sorte qu'un couple accède à de l'hébergement, il faut qu'il y ait deux places qui se libèrent. C'est rare.
Ouais.
Généralement, c'est une par une.
Ouais.
Vous voyez ? Donc c'est pas forcément évident, mais sur le principe,
c'est ok.
C'est ok.
Mmh. Et la moyenne d'âge, finalement, t'as un retour là-dessus ?
Ouais, la moyenne d'âge, elle est pas si élevée que ça, je crois. De mémoire, on est à 38 ans, 39 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Mais ça reste une moyenne. Une moyenne, c'est jamais que le reflet d'une fourchette, en fait. Et pour être un peu plus précis, bah, la personne la plus jeune qu'on ait pu accueillir ici, elle avait 16 ans. Et la personne la plus âgée, 86. Ouais. 16 parce que... Alors 16, vous me direz... tout à l'heure, vous m'avez dit majeur.
Ouais. Ouais.
Et bien là, typiquement, on est sur le cas d'une personne qui quitte son pays, mineure, mais qui n'est pas reconnue mineure par les services de l'État à son arrivée sur le territoire. Du coup, considéré comme un majeur, du coup, accès place 115.
C'est quoi, c'est le changement ?
Après, le boulot, ça va être de... Moi, je suis pas spécialiste en passeport ou en quoi que ce soit, je suis pas qualifié pour ça. Donc le boulot, ça va être de se rapprocher d'associations spécialisées, la CIMAD, la STI, Sorosa, Valence, et de faire ce travail-là avec eux. Voilà. Pour le coup, ce jeune, maintenant, il est pris en charge au titre des mineurs. Ouais. Il a mené sa lutte et son combat. Les tribunaux ont reconnu sa minorité. Donc, il a pu quitter le foyer d'urgence pour rentrer dans un établissement pour mineurs.
D'accord. Et en fait, la moyenne, on va dire, je fais un peu des généralités parce que j'essaye de, voilà, c'est pas évident de parler de cas particuliers, mais il reste en moyenne combien de temps ? Ça peut durer longtemps ?
Enfin, 3 et 6 mois.
Entre 3 et 6 mois ?
Ouais, on reste sur une moyenne. Hein.
Ouais.
On reste sur une moyenne, 3-6 mois, parce que la durée la plus courte, c'est une nuit, et la plus longue, c'est quasiment 2 ans.
Ok, mais c'est... peut-être moins courant de rester...
Mais c'est
de...
moins...
Voilà, c'est ça.
Okay. Alors, c'est
pourquoi parce que finalement, il y a un travail qui est fait pour vraiment amener la personne à pérenniser quelque chose ailleurs, et etc.
C'est exactement ça, c'est ce que je vous disais. Le but du jeu ici, c'est de faire en sorte que la personne n'ait plus à revenir. Donc, on va s'assurer déjà que le travail qu'on fait soit en adéquation avec les envies, les besoins de la personne. Donc on va là où elle a envie d'aller, on l'accompagne là-dedans. Il y a bien évidemment des choses où on ne peut pas aller, ça c'est autre chose. Mais on essaye on colle à ça. Ce qui peut être long, effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est dans le cas de d'établissements spécialisés en sortie. Ou de choses qui ne dépendent pas de nous, la disponibilité d'un logement social sur le secteur, par exemple. Tout simplement, convaincre un bailleur privé que la personne, elle est digne de confiance. Malgré le fait que, Ouais, elle présente comme elle présente, mais on va pas s'arrêter à ça. Regardez, elle a ses fiches d'impôts, elle a ses fiches de paye, elle a la CAF. Voilà. Donc c'est aussi un travail qu'on doit mener.
Ça, c'est votre travail aussi, de chercher par exemple un logement pour
Ben oui.
quelqu'un sans avoir forcément dans votre besace un logement, quoi. En gros, c'est ça, hein.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
C'est ça. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce travail.
C'est large.
C'est spectre très large, très très large. Chaque personne qui arrive ici est susceptible de nous présenter des situations qu'on n'a jamais vécues auparavant. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'ennui, jamais. Et on s'adapte. Voilà. On s'adapte. Moi, dans mes accompagnements, j'ai eu à faire des réunions. À accompagner des parents d'élèves parce que la langue française était compliquée en école primaire, et puis à accompagner et monter des dossiers retraite. Et tout ce qu'on peut imaginer entre ces deux bornes-là, et ben un jour ou l'autre, c'est possible que ça arrive.
Pourquoi faire ce métier?
T'es sérieuse?
Qu'est-ce qui a été le déclic, je sais pas. Un déclic particulier pour ça ou c'est quoi ton...
Ouais, il y a une espèce de lieu commun qui dit qu'on fait jamais ce métier par hasard.
Ouais.
Moi, je m'exclus pas de ça, vraiment pas. Je crois que le déclic, pour moi en tout cas, je l'ai eu relativement tôt, 14-15 ans. Mais il aura fallu que je fasse bien d'autres métiers avant d'en arriver là.
D'accord.
Voilà. Donc oui, moi. Pour parler que de moi, c'est vraiment ce public-là qui m'a amené à ce travail-là.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Parce que ça vient, voilà, ça vient toucher quelque chose en moi et ma réponse, elle est là tous les jours en venant travailler.
Génial, hein, c'est bien. Alors donc on a dit accueil du jour. Donc ça veut dire que là, une équipe, vous êtes une équipe journalière. De combien? Parce que j'imagine qu'il y a des cas quand même où vous avez accès à un psy, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Et ça, c'est pas tout le temps,
Non.
c'est voilà, c'est à votre convenance. Enfin, vous appelez en disant tiens, là, on a une problématique ou comment ça se passe à ce niveau-là pour les suivis?
Alors, il y a des services comme les Halte Soins Santé ou les ACT où un temps de psy est prévu dans l'équipe.
Ok.
Voilà. Donc, ça, c'est un grand luxe en vrai. C'est un grand luxe. Sinon, on travaille en lien très très étroit avec le CMP. Et le CMP détache une infirmière psy. Voilà. Ça va être l'équipe mobile de précarité psychiatrie. Et cette infirmière psy vient 2 jours par semaine dans nos locaux. Et ça va être un relais très 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 précieux. Vraiment. Parce que la psychiatrie est compliquée d'accès. Vraiment. Par des délais déjà, par des formalités, par la représentation que les personnes peuvent en avoir. Mais moi je suis pas fou. Elle ne parle pas de folie.
Ben.
On parle pas de folie. Donc il faut aussi déconstruire toutes ces représentations qu'on peut avoir par rapport à ça, avant que la personne accepte d'aller rencontrer un psy ou même accepte de parler avec l'infirmière psy, parce qu'elle est formée du coup. Et c'est des fois toute la difficulté qu'on a dans nos accompagnements. Et on parlait de temporalité, c'est là où le temps est un atout. C'est que entre ce que nous, on peut observer de chez la personne, de ce qu'elle pourrait avoir comme besoin, et de ce que la personne est prête à accepter de faire pour elle, il faut du temps. Il faut du temps. Un cas classique, et parce qu'on le retrouve dans la vie de tous les jours, enfin, même dans nos familles, t'es alcoolique, va te faire soigner. C'est une violence incroyable. Déjà, reconnaître que l'alcoolisme est une maladie, reconnaître que je suis malade, accepter le fait de demander de l'aide. T'imaginais le temps qui peut se passer avant d'en arriver à rencontrer le professionnel de santé? Voilà, le temps. Le temps, il n'y a que ça. Y a que ça. La parole, le temps. C'est nos deux alliés. Hein.
Ouais. Et là, donc j'entendais parler tout à l'heure de groupes de parole. Donc vous organisez des groupes de parole, c'est ça?
Oui, on essaye d'organiser alors des groupes de parole ou des conseils de vie sociale parce que l'idée première, c'est qu'on puisse s'appuyer sur la parole des gens pour faire notre travail au quotidien. Et pour ça, et ben effectivement, de temps en temps, il y a des gens qui viennent assez facilement, ils poussent la porte du bureau, ils s'installent, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est le plus facile. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus dur. Il y en a d'autres qu'il faut aller chercher, où il faut aller gratter un petit peu pour avoir un peu de ressenti, pour avoir un peu de choses comme ça. Et puis, il y a des instances comme ça qui sont mises en place sur des temps collectifs où on peut soit laisser la parole aller, soit travailler par thématique. Et effectivement, ce matin, il y a un groupe de parole à l'accueil du jour qui est mis en place sur le thème des consommations d'alcool.
Justement, alors l'alcool, du coup, à l'intérieur du foyer, il y a une restriction, j'imagine, ou non? Comment ça se passe à ce niveau-là?
À l'intérieur à l'intérieur du foyer d'hébergement, oui, il y a une restriction. On demande aux personnes de ne pas consommer à l'intérieur du foyer. En fait, on va partir du principe qu'on ne va pas, on ne va pas gérer l'alcoolisation de la personne. Je reviendrai là-dessus après. Mais plutôt son comportement. Comment elle se responsabilise par rapport à ses consommations. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Ok. Alors, l'alcool fait partie, l'alcool, globalement, les consos, quelles qu'elles soient, font partie de notre quotidien. Comme on disait tout à l'heure, si on considère que l'alcool est une maladie grave, qu'une personne met sa vie en danger si jamais elle arrête de consommer de l'alcool de façon complètement abrupte et non contrôlée, on peut pas ne pas agir là-dessus. On a des partenaires pour ça, notamment Addiction France, qui eux aussi ont des permanences dans nos locaux pour venir travailler autour de l'addiction. Voilà, c'est ouais, carrément génial. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, on n'a pas ni les compétences, ni le temps. Et donc, on a des partenaires dont c'est la spécificité. Donc, on travaille avec eux. C'est le top. Bref, du coup, on va demander aux gars de se responsabiliser par rapport à leur comportement. On sait que tu bois, mais tu vis au milieu de 15 autres personnes. Donc, essaye de réguler un tant soit peu ton comportement, de faire en sorte que la vie en communauté soit possible. Si c'est pas possible, il y a des choses qui peuvent être mises en place. On peut demander à la personne de rester en chambre. On peut demander à la personne de ne pas rentrer tout de suite, de revenir un petit peu plus tard. Dans ce cas-là, on fournit une bouteille d'eau, un sandwich, une couverture s'il fait froid. Voilà, on diffère le retour. Mais on ne peut pas dire à une personne, t'as bu, c'est pas bien. Et lui refuser l'accès au
Bien sûr.
service sur ce prétexte-là. Sinon, on accueille quasiment plus personne. Hein. Donc, le boulot, il est là. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a, on va dire, un travail de fond et une réflexion qui doit être menée sur justement l'alcool dans les structures. Qu'est-ce qu'on en fait, comment et pourquoi? Donc, ça, c'est rude au niveau du travail, mais c'est tellement intéressant professionnellement parce que de toute manière, c'est aussi quelque chose qui vient des gars. Moi, je consomme, je suis alcoolique. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et du coup, ils ont quand même pas le droit de consommer sur place, en fait. C'est ça le seul, on va dire, frein qui leur est donné, c'est ça?
C'est pour l'instant. Alors, sur l'hébergement, oui. Sur
Ouais.
l'accueil de jour, c'est plus le cas. Ils peuvent consommer
Ok.
dans la cour de l'accueil de jour,
D'accord.
pendant le temps d'ouverture du service. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là commence par l'accueil de jour, mais on se rend bien compte que ça rayonne et qu'on ne peut pas faire l'autruche sur l'hébergement parce qu'il y a des répercussions, parce qu'on a un public qui est transversal. On a un public qui est hébergé là, mais qui le matin fréquente l'accueil de jour. Ça questionne énormément. Du coup, on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas une mise au travail nécessaire à l'hébergement non plus, parce qu'on a un public malgré tout similaire. Donc, Donc c'est super intéressant que les lignes bougent, que les curseurs bougent, parce que ça nous remet aussi nous face à nos pratiques. Et ça, c'est génial. C'est génial.
Vous accueillez des gens qui sont essentiellement sur, enfin, dans le coin ou pas du tout, ça n'a rien à voir, enfin.
Non, alors, il y a une part de réalité, oui, il y a une part de personnes qui sont issues du secteur, mais le 115 étant un numéro d'appel départemental, finalement, l'origine de la personne peut être large, très très large.
Il faut qu'elle puisse venir quand même.
Faut qu'elle puisse. Alors, on est dans la vallée du Rhône, on est bien desservi.
Ah, ok.
Ouais.
d'accord, ok.
On est carrément plutôt bien desservi. Et quand bien même la personne appellerait de la Drôme, parce qu'on a des places dédiées à l'Ardèche et des places dédiées à la Drôme, le Cémis, de temps en temps, fait des accompagnements jusqu'à nous. Si la personne ne peut pas se payer le train ou prendre un bus ou n'a pas de véhicule, voilà, on arrive à trouver des solutions.
Okay. J'imagine que l'hiver c'est un peu plus prégnant ou c'est pareil en
Non,
fait?
c'est toute l'année.
C'est vrai?
Ouais, c'est toute l'année.
Ouais.
Vous seriez venu me poser cette question il y a 5-6 ans en arrière. Je vous dirais oui, l'hiver, effectivement, il
Ouais.
y a une charge de travail beaucoup plus importante.
Ouais.
Depuis 5-6 ans, c'est toute l'année. C'est toute
Ça,
l'année.
c'est pas une bonne nouvelle, hein.
Non, c'est pas une bonne nouvelle, non.
Ouais.
Non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ouais, on observait effectivement l'été, sur l'hébergement en tout cas, un ralentissement. L'hébergement était plein,
Ouais.
c'est pas la question, mais il y avait un peu moins de demandes. Il y avait un accueil de saisonniers qui se faisait, comme ça, c'est la vallée du Rhône, c'est tout le temps. Enfin, on le sait, ça attire énormément de travail saisonnier. Donc ça, on a l'habitude. Mais il n'y a plus de saisonnalité. Alors c'est vrai que souvent, ça émeut le froid, les gens qui dorment dehors, le froid. Ça émeut beaucoup parce qu'on voit des images à la télé, parce que les médias, comment il appelait ça?
Bah, puis on se projette
On se
aussi, je
projette, bien
pense.
sûr, bah, c'est tellement humain.
Bah ouais.
C'est tellement humain. On sort de chez soi pour aller faire ses courses, on a froid, donc effectivement, on s'imagine que dormir dehors, c'est pas terrible. Effectivement, c'est pas terrible. Je crois que c'était De Clercq qui appelait ça un marronnier pour les journalistes. Quelque chose qui revenait périodiquement.
Ah oui.
Ouais, il fait froid, on pense à la misère.
Oui.
Sauf que paradoxalement, on meurt de froid l'été aussi, sous le biais de l'alcoolisation. L'hypothermie, machin, tout
De
ça.
froid.
Ouais, de froid.
Ah ouais.
Ouais, c'est assez paradoxal de dire ça, mais le corps rentre en hypothermie et on peut mourir de froid l'été.
OK.
Ouais. Et puis, depuis quelques étés, il y a quand même des plans canicules assez sévères qui sont déclenchés. Donc, il y a quand même des besoins en termes de mise à l'abri, de protection, pouvoir fournir de l'eau, pouvoir fournir un espace abrité de la chaleur et du soleil. Ouais, ça aussi, ça fait partie de la réalité
Eh
maintenant.
oui, c'est ça,
Ouais.
ouais. Et vous avez des demandes de mise à l'abri pour violence conjugale ou des choses comme ça ou... Ouais, ça peut être ça
Ça
aussi.
peut être ça aussi, ouais.
Ouais.
Ça peut être ça aussi. On a
Parce que là,
des.
la prise en charge, elle est quand même assez différente, j'imagine, non?
Ouais, la prise en charge est un petit peu différente parce que il y a quand même un devoir de. Globalement, il y a un devoir de protection auprès de nos publics. Après, sur les personnes victimes de violences, j'ai envie de dire encore plus parce que derrière ça, il y a un auteur de violence. Donc il faut que la personne qu'on héberge, victime, ne soit pas traçable.
C'est ça. Il faut que ce soit
Il faut que ce
anonymisé
soit
à fond, quoi.
anonymisé, non
Ouais.
retrouvable. Donc il y a des appartements qui sont prévus pour ce type de public.
Ok.
Voilà, où il y a peu de com, il n'y a même pas de com là-dessus. Le 115 est au courant, la gendarmerie est au courant. Et ce travail auprès des personnes victimes de violences se fait avec ces deux acteurs en lien avec voilà, gendarmerie. Ça peut être, après, ça peut être une mission locale, ça peut être aussi un CMS, un CMP, peu importe. Mais disons que le 115, la gendarmerie, sont en alerte pour ce type de dispositif.
Ok.
Voilà.
Et je vais poser une question, mais qui a mis en place cette formidable, ce formidable maillage? Moi, je suis impressionnée parce que je trouve ça vraiment génial, tout ce qui est là, tout ce dont tu me parles. Au départ, qui a eu cette initiative, on va dire?
C'est une initiative qui est pas toute jeune. L'association a fêté ses 40 ans l'an
Ah,
dernier.
génial.
Ouais. Et On en arrive là, en fait, finalement, par la volonté et le travail des présidents qui se sont succédés, des présidents d'associations qui se sont succédés, des directeurs qui se sont succédés. Et puis, je vais pas m'oublier, mes collègues et moi, dans cette histoire-là, parce que
Ah, mais ça s'est cultivé, alors, tu
ça s'est
dis,
cultivé, mais voilà, c'est une volonté associative. Qui est là finalement depuis le début. Si à l'origine le projet associatif c'était sortir les gens de la misère, ce projet-là en soi il est toujours là, mais depuis 40 ans et jusque-là aujourd'hui il s'étoffe. Il s'étoffe aussi parce que on a les moyens de l'étoffer. Parce que ce soit l'État, que ce soit l'ARS, permettent de monter des services, donnent des financements pour monter des services qui répondent à divers besoins.
Alors justement, j'entends ça et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des restrictions financières du coup? Parce qu'on en entend tellement qu'on se dit, ah, aïe, ouais.
Les budgets alloués au fonctionnement dans le social, effectivement, c'est pas toujours évident. Ça, c'est le gros travail de la direction et de l'association, de trouver et d'aller la pêche au financement. C'est un gros travail. Y a des. Ça va, ça vient, j'ai envie de dire. Il y a des services qui ont le vent en poupe au niveau financement parce qu'à un moment donné, l'État croit en ce genre de mesures. Donc, on va financer. D'autres services qui ont un petit peu moins le vent en poupe. L'hébergement, typiquement,
Ouais.
ouais, du coup, là, on peut voir des baisses de financement.
Et alors, ça se répercute comment du coup?
Ça se répercute au quotidien sur. J'ai pas envie d'aller jusque-là, mais parce que les collègues font un maximum tous les jours pour que les personnes ne le ressentent pas. Mais là où on pourrait se dire, tiens, il manque un collègue, ben non, il n'y a pas d'embauche. En fait, on travaille un peu à flux tendu sur nos horaires tout le temps, sur des courses, sur des achats, sur de l'alimentaire, sur de la fourniture. Donc après, l'association a toujours en veille le fait qu'il y ait moins de répercussions possibles et sur les salariés et sur le public qu'on accueille. Mais c'est une gymnastique impressionnante. Impressionnante.
Et quand vous voyez en fait des changements, je dirais, politiques, ça fait flipper ou pas? La question qui tue.
C'est la question qui tue, ouais. Bien sûr qu'il y a des changements qui peuvent faire peur, bien sûr. Bien sûr.
Mais bon, faut continuer.
On continue, voilà, c'est ça.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quelque chose que tu tiens à cœur? Un
Non,
cri du
quelque chose
cœur, je sais
qui.
pas, un truc que tu
Non,
aurais envie de dire?
merci. Juste, je te dis merci à toi.
C'est gentil.
Parce que c'est chouette en fait de s'intéresser à nos publics, au travail qui est fait derrière. C'est chouette. Et après, non, 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 juste si tu as envie d'aller à la rencontre des gars, aller à la pêche. Voilà.
Welcome.
C'est welcome.
Super, merci beaucoup.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinés. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenez. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
On pourrait faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain.